Alors, Marie-France, tout de suite après l'intervention des ex-ministres libérales devant la presse, Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Fanny Lévesque,
oui,
la correspondante parlementaire de la presse à Ottawa. Elle était d'accord à dire que c'est pas terminé parce qu'elles ont été expulsées. Il y a un climat encore extrêmement agité
ah oui.
à Ottawa. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, le premier ministre faisait une rencontre aujourd'hui, il s'adressait en fait à des participantes d'un événement qu'on appelle héritières du suffrage.
Mm-hmm.
Des jeunes femmes, il y en a 50 qui lui ont tourné le dos.
Et c'est quelque chose.
En pleine
hein?
chambre. En
oui,
pleine chambre.
C'est vraiment quelque chose. Et non, je pense que Justin n'a pas fini avec son tourment. Elles ont été expulsées du caucus. Elles ont l'air à se demander pourquoi. Il y a quelque chose de vraiment étonnant chez ces deux femmes-là, c'est clair. La raison finale est rupture du lien de confiance. C'est l'enregistrement par Jody Wilson-Raybould en secret de sa conversation avec le greffier du conseil privé qui a définitivement miné la confiance que Justin Trudeau avait envers elle. Ça a enfoncé le clou et par association, ça a valu donc le départ de Jane Philpott également. Donc, je te le disais, Paul, 8 semaines. Ça fait 8 semaines que le caucus est divisé, que cette affaire-là a un effet de bombe à fragmentation. Tu sais qu'il finit plus d'en faire mal. Ça a causé des ravages. Justin Trudeau en sort atteint. Il l'est depuis un bout de temps et ça fait longtemps qu'il aurait dû mettre son pied à terre. Et j'ai l'impression qu'il est trop tard maintenant parce que Mme Wilson-Raybould a été élevée au rang de victime, de martyr, et ça continue par le reste du Canada, par le Parti conservateur évidemment, par le NPD également, et la gestion de crise erratique de Trudeau lui a littéralement, à elle, ouvert une autoroute pour la fronde qu'elle a menée et qu'elle continue à mener. Ce qu'elle représente, et ce pourquoi les jeunes femmes se sont retournées aujourd'hui lors de l'allocution de Justin Trudeau, c'est qu'elle représente tout ce qui était finalement la belle façade progressiste de ce gouvernement-là. C'est une femme forte. C'était un gouvernement, et c'est encore, j'imagine, dans la tête de M. Trudeau, un gouvernement féministe. C'est une autochtone, et c'est une femme qui n'est pas du côté de cette entreprise qui sent le souffle.
Exactement.
SNC-Lavalin.
Il y a quelqu'un qui disait, on connaît le film The Perfect Storm, la tempête mm-hmm. parfaite, tous les éléments réunis pour hanter le premier ministre.
Et le hanter, parce que là, la belle saison commence. On est à 7 mois des élections. Il va bientôt, dans quelques semaines, prendre la route des épluchettes et des soupers spaghettis à travers le Québec, beaucoup, à travers le reste du Canada, à travers sa circonscription. Et il va y avoir cette cicatrice. Et si le reste du Canada, si les conservateurs et le NPD continuent à brasser cette soupe-là, ça sera vraiment pas très agréable. Peu importe d'ailleurs que Mme Raybould soit manipulatrice, parce que rendre public un enregistrement où elle a piégé littéralement le greffier, faut pas avoir trop de scrupules. On a vraiment l'impression qu'elle voulait et qu'elle veut encore la tête de Justin Trudeau, mais ça demeure pour lui vraiment une épine dans son pied. Et il y a un effet remarquable et mesurable dans les sondages. Au Canada, le Parti libéral est en baisse à 30,7% et les conservateurs sont maintenant, Paul, à 37%. Répartition des sièges, ça ferait 176 et pour être majoritaire à la Chambre, c'est 170. Imagine, ils sont maintenant en zone majoritaire. C'est quelque chose
Tu parles
d'énorme.
Des conservateurs.
Des conservateurs, ouais, oui, excuse-moi. Et au Québec, le Parti libéral connaît une baisse. Le Bloc et les conservateurs, eux, montent. Le Parti libéral est encore en hausse, mais ça continue à baisser. Il n'y a plus aucun libéral dans l'Ouest du Canada. Donc, la situation se corse et j'imagine que les stratèges libéraux ont vraiment les yeux rivés sur ces sondages-là. Donc, est-ce que l'expulsion est assez pour faire remonter la cote du Parti libéral, pour attirer l'attention sur autre chose, enfin, à quelques mois des élections? Les partis d'opposition, c'est clair, ne vont pas lâcher le morceau. Et d'ailleurs, l'affaire SNC-Lavalin n'est pas conclue.
Loin de là,
il peut y avoir réparation encore.
Ben ouais.
Donc, quel quelle sera la suite? Les ministres ont donc pas fermé la porte à un accord de réparation et l'opposition pourrait vraiment gruger cet os-là.
Alors, et là, tu vois, t'as vu la sortie de François Blanchet, lui,
oui,
c'est le contraire.
Oui, c'est le contraire,
il
exactement.
Il veut relancer l'idée de négocier une entente hors cours avec SNC-Lavalin afin d'éviter à la firme un procès criminel.
Ouais, et le Bloc gagne des points tranquillement dans les sondages, peut-être grâce à ça. En tout cas, j'imagine que M. Blanchet considère que c'est une bonne stratégie. Alors, d'autre part, on ne sait pas, tu sais, la politique s'est faite de toutes sortes d'affaires. Peut-être que les conservateurs ou peut-être même que le NPD pourraient faire un pont à Jody Wilson-Raybould qui n'a pas l'intention de quitter la politique. Bref, on verra ce qui va se passer. Et la question fondamentale demeure, en tout cas moi je me la pose toujours, qui ment dans cette affaire-là?
Oui, qui ment?
Qui ment?
Et elle a dit, elle a justifié le fait d'avoir enregistré, évidemment, sa conversation
avec le greffier
du conseil privé, en disant qu'elle voulait se protéger. Et qu'elle l'a fait, d'ailleurs, à titre de ministre de la Justice quand même, elle a précisé que dans d'autres circonstances, elle n'aurait pas agi de la sorte, mais que son geste était légal.
Je suis sûre qu'un jour, il va y avoir un livre ou un film qui va sortir
peut-être
sur cette affaire-là.
Peut-être. Eh bien, pendant ce temps, New York City va instaurer, d'ici 2 ans, un système de péage urbain pour financer le réseau de transport en commun. Remarque que ça existe déjà en Europe, notamment
oui,
à Londres.
Absolument. Est-ce que tu es déjà entré à New York en voiture?
Certainement.
Le trafic est quelque chose, hein?
Ah!
C'est vraiment...
D'abord, si tu suis pas le flot...
Oui, t'es fait. Non,
t'es
non, faut vraiment suivre le flot.
Ah.
Heureusement, eux, leurs lumières sont synchronisées,
oui.
Mais quand tu
et
roules...
Et il n'y a pas de nid de poule, enfin, pas comme les nôtres.
Les rues sont défoncées quand même.
Un peu. Mais pas comme les nôtres.
Non, c'est pas le même genre de nid de poule, effectivement. Mais effectivement, Montréal a écarté pour l'instant cette idée de financer en faisant payer pour entrer dans le centre-ville. À New York, c'est dans Manhattan, c'est pas dans les autres quartiers, et c'est à partir de la 60e rue en descendant vers le bas de la ville. Et ça coûterait 10 $ par jour et on pense aller chercher 1 milliard de dollars par année avec cette opération-là. Tu le disais, à Londres, ça existe, à Milan, à Singapour, dans deux villes plus modestes, ben, enfin, des grosses villes, mais pas de la taille de Londres, Stockholm et Oslo en Scandinavie. À Rome et à Milan, il y a l'interdiction complète dans certains secteurs pendant la journée. Et San Francisco, Seattle et Vancouver s'y intéressent à cette mesure-là. Donc, à New York, le but est clair et net, c'est vraiment de réinvestir et de moderniser le système de transport. Le métro est vraiment... dessert super bien les quartiers de la ville à New York. New York est vraiment bien quadrillé, mais les wagons, si tu les as déjà pris et si nos auditeurs les ont déjà fréquentés, sont vraiment, mon Dieu, antiques.
Ben non, ce que je pourrais te dire, si on veut être honnête, Marie-France, tu vas être d'accord avec moi, de qualité variable.
De qualité variable. Il y a une ligne, la ligne 456, qui est vraiment climatisée, des super beaux wagons modernes, mais les autres, c'est vraiment un voyage dans le temps. Les stations sont à refaire et ils les refont. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs le Wi-Fi à la plupart des stations.
Mm-hmm.
Le système de bus est une horreur à New York, littéralement, et la circulation est infernale. À Montréal, Denis Coderre, en 2017, avait ouvert la voie à cette intention de faire payer pour accéder au centre-ville. C'était dans le cadre d'une action pour lutter contre les changements climatiques. Valérie Plante, aujourd'hui, l'a littéralement exclue. Stephen Guilbeault d'Équiterre, futur peut-être candidat libéral fédéral, lui serait favorable à une mesure comme ça. Mais à Montréal, si on voulait instaurer ça, parce que ça touche la grande région métropolitaine, là, ça parle des gens des banlieues qui viennent travailler au centre-ville de Montréal, il faudrait un système de transport qui quadrille vraiment la ville et le centre-ville, qui soit efficace et existant, ce qui n'est pas le cas exactement à Montréal. La ligne orange, entre autres, est surchargée et c'est pas pour rien que la ligne rose commence à faire son chemin dans plusieurs esprits, parce que ça servirait de ligne de délestement pour la ligne orange. Et le maire Drapeau, s'il n'avait pas été visionnaire dans les années 60, on n'aurait probablement pas de métro actuellement. Donc, il faut penser pour les années à venir. Mais il faudrait également que les travaux à Montréal soient terminés. On parle de Turcot, on parle de Champlain, la démolition de Champlain, on parle du REM. Il faudrait que les rues soient en bon état et qu'il n'y ait pas des entraves partout. Il faudrait qu'il y ait des stationnements incitatifs en amont, dans les banlieues, et que les gens puissent prendre le transport en commun. Il faudrait peut-être qu'on pense à l'hiver également, parce que beaucoup de gens qui se déplacent à vélo et qui marchent l'hiver sont peut-être moins portés à le faire. Donc, peut-être que ça pourrait être une mesure saisonnière, parce qu'on me dira, il y a un hiver à Oslo et à Stockholm, mais c'est vraiment pas le même hiver qu'à Montréal, ni à Vancouver, ni à Seattle, évidemment. Puis, il faudrait se demander pour quelles raisons on ferait ça. Est-ce que c'est pour une lutte au réchauffement, auquel cas il y a d'autres moyens. On peut restreindre, on peut bloquer certaines rues, on peut augmenter le prix du stationnement, on peut le restreindre, toutes sortes de mesures comme ça. Si c'est pour recueillir de l'argent pour construire, par exemple, la ligne rose, alors là, go ouvrez le centre-ville à ceux qui payent et qui vont payer pour l'ensemble de la communauté. Puis là aussi, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'on ferme exactement? Quel quadrilatère? Est-ce que c'est restreint ou c'est large? Est-ce que ça va, mettons, de Saint-Laurent à Atwater, du fleuve jusqu'à Sherbrooke?
C'est ça le problème.
Qu'est-ce que ça comprend exactement? Tu sais, si c'est juste pour une petite portion du centre-ville, ça vaut pas déjà, vraiment la peine.
Ben non, déjà, les gens, les automobilistes en particulier, pestent contre l'arrondissement du plateau à cause de l'orientation des sens uniques et en plus des festivals durant
l'été.
J'allais
te le dire, c'est vraiment, tout à peu près est fermé.
C'est déjà
fermé. Tout est pas mal fermé pendant l'été. Les rues est-ouest, il y en a vraiment un grand nombre qui sont fermées. Là, la rue Sainte-Catherine va être à peu près exempte de stationnement, va être à une seule voie de circulation, enfin une voie et demie pour permettre les livraisons. Fait qu'on est en train, d'une certaine manière, de fermer le centre-ville. Alors, faudrait le dire, il faudrait savoir à quoi ça sert exactement. Mais j'ai l'impression que l'expérience new-yorkaise va être vraiment suivie parce que on a un quadrillage urbain qui ressemble à celui de New York, le très carré, des rues pas particulièrement en bon état. Là-bas, c'est vraiment des rues défoncées. Ici, c'est les nids de poules, c'est autre chose. Mais si c'est pour une ville qui fonctionne mieux, je pourrais me laisser convaincre, mais il faudrait vraiment des arguments. Il faudrait vraiment, comme je te disais, que la ville soit en état. On ne peut pas faire ça du jour. On peut pas faire ça l'an prochain. On peut pas faire ça dans 5 ans.
Ben non.
Il faut vraiment, vraiment, vraiment le planifier longtemps à l'avance.
Alors, Marie-France, je t'annonce que Luc Ferrandez a demandé un enregistrement de ta chronique et un transcript.
J'ai dit beaucoup, 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 beaucoup de conditions. J'ai pas faim.
Il a déjà aimé ta chronique quand même. Merci beaucoup et à demain.
À demain, Paul.